secrets d'info. Jacques Monin sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Hélène Ferrarini. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous publiez Allons enfants de la Guyane. C'est une enquête sur l'évangélisation des enfants amérindiens de Guyane qui a eu lieu depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui. Cette évangélisation, elle revient en fait à déraciner les enfants, à les enlever de leur famille, à les couper de leur culture. Et elle se passe dans ce qu'on appelle des homes. Home, c'est H-O-M-E, donc comme foyer en anglais. Alors on va peut-être commencer par là, Hélène Ferrarini, si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est précisément qu'un home en Guyane?
Ce qu'on appelle les homes indiens en Guyane, ce sont des pensionnats catholiques qui sont gérés par des religieux, donc par des prêtres ou des sœurs qui appartiennent à différentes congrégations, avec de l'argent public afin de scolariser, assimiler et évangéliser les enfants amérindiens. Et également des enfants des communautés noirs-marronnes, qui sont des peuples descendants d'esclaves rebelles qui ont fondé des villages indépendants en forêt. Et donc ce sont ces deux populations, amérindiens et noirs-marrons, qui ont été visées par les hommes indiens.
Alors on va expliquer tout ça, simplement un mot, vous dites que donc tout ça est financé par de l'argent public. C'est vrai qu'il faut préciser qu'en Guyane, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État.
En effet. Alors ça remonte à une ordonnance royale du début du 19e siècle, où il est entendu que l'État, donc d'abord c'est le ministère des colonies, puis ensuite ça revient au Conseil général, rémunère les prêtres uniquement du clergé catholique. Et en 1946, au moment de la départementalisation, qui est censée être un temps de mise à égalité législative des nouveaux départements d'outre-mer, dont la Guyane, avec les départements de l'Hexagone, la question se pose. Est-ce qu'on applique la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État? Et la réponse qui est donnée est non. Donc on maintient ce statut jusqu'à aujourd'hui, où quelques prêtres catholiques sont toujours rémunérés aujourd'hui par la collectivité territoriale de Guyane.
Alors comment fonctionnent ces homes précisément? En fait, ce qu'il faut raconter, c'est que pendant très longtemps, les prêtres ou les sœurs allaient tout simplement chercher les enfants dans les villages, dans les familles.
Lors de la mise en place de ces internats, effectivement, il y a tout un travail d'évangélisation qui est déployé par les religieux pour convaincre les familles de leur confier les enfants et de garder les enfants auprès d'eux pendant des années. Puis progressivement, cette institution s'est installée dans le paysage guyanais. Et les religieux, alors au tout début, le font d'eux-mêmes, donc lorsque ça émerge dans les années 1930-1940. Et puis lorsque l'administration préfectorale, donc à partir de 1946-48, avalise ce fonctionnement et le finance, alors là on voit apparaître la figure des gendarmes qui peut prêter main forte aux religieux quand il s'agit de convaincre des familles récalcitrantes.
Oui, parce qu'il y en a, vous le racontez, il y a des résistances de certains parents qui ne veulent pas laisser partir leurs enfants.
Effectivement, j'ai pu recueillir quelques témoignages, c'est présent dans quelques archives. Il y a quelques familles qui, par exemple, ont quitté la Guyane et se sont installées au Brésil, juste en face de la Guyane, entre autres parce qu'ils ne souhaitaient pas que leurs enfants grandissent chez le prêtre.
Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler, je dirais pas des enfants volés, mais vous racontez par exemple l'histoire de cette femme qui s'est coupée un doigt quand elle était enfant, en jouant dans une vieille voiture abandonnée. Des religieuses l'ont donc emmenée dans un home pour la soigner à l'origine, et puis elle est jamais rentrée.
Oui, ça c'est une des manières pour les religieux d'approcher les familles, c'est en jouant sur les soins médicaux qui sont dispensés. Il faut inscrire ça dans un contexte plus large où les communautés amérindiennes, lorsque les pensionnats se mettent en place, sont très fragilisées, ils sont peu nombreux et aussi sujets à toutes sortes de maladies. Et on voit comment en fait l'entrée par le soin permet ensuite de prendre les enfants ou de gagner la confiance de certaines familles. Et donc ça pouvait marcher comme ça ensemble.
Et vous estimez à 2000 le nombre d'enfants qui sont passés par ces homes?
Oui, ça c'est une donnée que j'ai pu construire grâce aux archives que j'ai consultées pour cette enquête et qui recense le nombre d'enfants présents dans les différents pensionnats qu'on trouve sur le territoire guyanais. Et voilà, j'arrive à ce chiffre d'environ 2000 enfants qui correspond à une donnée qui avait été également élaborée par une chercheuse, la toute première à s'être intéressée à ce sujet, encore très méconnue, il y a une dizaine d'années, Françoise Armanville, qui elle arrive également à un chiffrage à peu près similaire.
Alors on pourrait se dire, après tout, pourquoi pas, si ça peut permettre justement d'éduquer des enfants, de leur donner des armes pour réussir entre guillemets, hein, dans la société guyanaise. Sauf que ce que vous racontez, c'est que, et je vous cite d'ailleurs, on animalise l'enfant. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de déracinement, d'acculturation quelque part, mais c'est ça.
Bien sûr, et cet accès à l'école, c'est ce qui a aussi en partie convaincu certaines familles. L'accès à l'écriture, à la langue française, à des choses qui devenaient de plus en plus indispensables pour survivre en fait en Guyane. Sauf que c'est allé de pair avec une acculturation autoritaire, l'inculcation de tout un mode de vie occidental qui s'est faite avec une certaine violence, des maltraitances psychologiques et physiques, hein, une dévalorisation des cultures amérindiennes, des cultures autochtones et une dévalorisation des langues maternelles. Et ensuite, puisque cette tâche était confiée à des religieux, une évangélisation.
Alors si on reprend un peu ça dans l'ordre, la première chose qu'on fait lorsque les enfants arrivent, c'est de leur donner des vêtements occidentaux. En fait, on leur enlève cet onguent rouge qui colore leur peau, qui la protège du soleil, des insectes, et qui est typique hein, des Amérindiens là-bas. Et puis on leur interdit le vêtement traditionnel, le kalimbé.
Oui, ça revient dans plusieurs témoignages et de toute façon on le retrouve également dans les images d'archives. Les enfants sont habillés donc à l'européenne, en petits shorts, chemisettes, avec des sandales pour les garçons, en robe pour les filles. Ensuite, c'est tout un apprentissage de l'alimentation à l'européenne.
Alors c'est pareil, vous racontez que l'alimentation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un calvaire en fait pour eux.
Oui, il faut imaginer en fait le grand écart culturel qui a été imposé à ces enfants dans lesquels ils ont été plongés de force. Et j'aime bien en fait inverser l'histoire en imaginant un enfant de 5 ans qui grandit en Europe et qui du jour au lendemain se retrouve dans un village amérindien de Guyane où tout le monde parle une langue que lui ne comprend pas, à qui on fait manger du caïman, du toucan, des aliments dont il n'a pas la moindre connaissance, qui doit dormir en hamac et qui doit se repérer en forêt et mener des activités qui n'ont rien à voir avec le milieu dans lequel il a grandi. Et alors là, je trouve qu'on perçoit un petit peu plus la violence en fait de ce déracinement et de ce grand écart culturel imposé.
Et à ça, il faut ajouter la perte de la langue natale aussi. Et puis, ce que vous disiez, l'évangélisation, avec en toile de fond, en fait, cette idée, enfin, c'est ce qu'on comprend en vous lisant, mais cette idée que le clergé guyanais rêvait de l'émergence d'un clergé amérindien à travers justement cette éducation occidentale.
Oui, c'est ce que recherchent les prêtres et les religieuses, de futures nonnes, de futurs prêtres pour former un clergé autochtone. Et ça n'a pas marché à la hauteur de leurs attentes.
Alors ce qui est frappant aussi, c'est que ce sont des enfants qui à l'origine ne sont pas violents et ils le deviennent.
Plongés dans un contexte de violence qui est celui de la vie dans les internats, où ils sont mis sous pression, où ils sont en perte de repères. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui revient dans plusieurs témoignages que j'ai pu recueillir, où donc aujourd'hui ce sont des adultes, mais qui se rappellent qu'enfants, ils se battaient pour le meilleur morceau de nourriture, ou bien ils pouvaient se faire subir des sévices, des violences entre eux. Et eux l'imputent justement à ce climat dans lequel ils ont été plongés, loin aussi du contrôle familial.
Et puis cette violence finalement du pensionnat peut déboucher aussi sur des suicides. Vous évoquez le suicide d'un Indien de 12 ans qu'on a retrouvé pendu.
Oui, ça c'est un témoignage, enfin un suicide qui a eu lieu à Kamopi. Il y a maintenant une trentaine d'années et qui a été documenté par une chercheuse qui était présente dans ce village amérindien, trace une explication qui revient justement au fait que cet enfant devait retourner aux hommes indiens.
Alors les hommes, ils vont commencer à fermer à partir des années 70 et on sent qu'il y a même au sein de l'église d'ailleurs des contestations et des fractures entre ceux qui sont pour la perpétuation de ces hommes et puis ceux qui voudraient les fermer. Et puis ensuite va y avoir dans les années 80 l'affirmation aussi par les Amérindiens de leur propre culture qui fait que cette prise de conscience va aussi ébranler la pérennité de ces foyers.
Oui, tout à fait. À partir des années 80, on voit émerger le mouvement militant autochtone de Guyane qui dénonce l'assimilation autoritaire qui a été faite dans les hommes indiens. Et la plupart en fait des personnes qui forment ce mouvement politique sont des anciens pensionnaires. Ils ont grandi dans ces établissements et ils portent un regard critique sur ce qu'ils y ont vécu. Mais ce qui se passe en même temps, c'est-à-dire que dans les années, en 1980, tous les pensionnats du littoral guyanais ont fermé. émerge le mouvement militant, mais il reste en Guyane deux hommes indiens, celui de Maripasoula sur le fleuve Maroni, à la frontière avec le Suriname, et celui de Saint-Georges de l'Oyapock sur le fleuve Oyapock, à la frontière avec le Brésil. Et ces deux pensionnats perdurent donc jusqu'en 2012 pour celui de Maripasoula et jusqu'à aujourd'hui pour celui de Saint-Georges de l'Oyapock.
Quel avenir vous voyez pour ces structures ?
Le dernier qui est en activité, celui de Saint-Georges de l'Oyapock, est appelé à fermer, mais c'est quelque chose qui est dit depuis des années, que cet établissement fermera le jour où un internat public ouvrira ses portes à Saint-Georges et permettra aux enfants de fréquenter le collège tout en étant logés dans cet internat public. Mais jusqu'à présent, donc les travaux ne sont pas terminés, le homme indien existe toujours, et lorsqu'il sera fermé, la question du déracinement des enfants qui poursuivent leur scolarité doivent vivre à deux jours de pirogue de leur village dans un contexte culturel extrêmement différent de celui du village dans lequel ils ont grandi. Bah, cette question, elle se posera toujours.
C'est quoi ? C'est une échelle de mois, d'années ?
De quelques années.
De quelques années. Très bien. Bah, je rappelle que votre livre, pour ceux qui voudraient poursuivre, aller plus loin que notre conversation, s'intitule « Allons, enfants de la Guyane ». Je précise qu'il est édité chez Anacarsis et j'en profite pour remercier nos confrères de France Bleu Occitanie qui nous ont permis d'établir la liaison avec vous puisque vous étiez en studio à Toulouse.